carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle. Une exposition au musée Jacques Marandré à Paris illustre avec magnificence, et pour la première fois, l'importante influence des courants baroques flamands au début du XVIIe siècle sur les peintres français de l'époque. Et l'essor de l'art classique français dans la seconde moitié du siècle va à son tour marquer l'art flamand. Un véritable jeu d'échanges artistiques en splendeur et originalité. Le conservateur du musée Jacques Marandré, Nicolas Sainte-Fargarneau, a bien voulu répondre à notre invitation pour nous présenter le génie si particulier de cette époque. Nicolas Sainte-Fargarneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur du musée Jacques Marandré et commissaire de cette exposition. D'ailleurs, nos auditeurs vous connaissent bien pour vous avoir entendu vous prononcer déjà sur plusieurs expositions. Pour ne nommer que la dernière, rappelons l'exposition sur les primitifs italiens, les chefs-d'œuvre des maîtres de Sienne et de Florence entre, je crois, du XIIIe et XVe siècle, n'est-ce pas ? Mais revenons donc à Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle. C'est donc la première fois que l'on présente en France cet extraordinaire échange croisé de courants artistiques. Au début du siècle, c'est l'art baroque flamand qui s'impose en France. Ensuite, dans la deuxième moitié du siècle, c'est au contraire l'art classique français qui rayonne et qui devient la nouvelle référence de Liège à Amsterdam. Et ce renversement d'influence qui s'est opéré entre ces deux écoles au cours du XVIIe siècle ouvre une perspective novatrice sur les courants artistiques dans l'histoire de la peinture, dont justement témoigne cette exposition. Pourriez-vous nous tracer maintenant les grandes lignes de ce fabuleux enrichissement artistique mutuel, Nicolas Sainte-Fargarneau ?
Très volontiers, mais je dois vous remercier d'ailleurs de cette introduction qui a clairement présenté le propos que nous souhaitions tenir avec cette présentation. L'idée de départ, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le sentiment que la tendance actuelle qui consiste à résumer l'art français par un dialogue permanent avec l'art italien n'est pas suffisant. Alors certes, les échanges entre l'Italie, les différents foyers artistiques italiens et la France sont une évidence, s'il n'est pas dans mon propos de revenir sur cette question, mais je voudrais élargir un petit peu le propos et montrer en réalité que s'il y a bien des courants et des influences qui passent par le sud, il y en a d'autres qui passent par le nord. Et ceci, si vous voulez, c'est une chose qu'on avait tendance à oublier. Peut-être parce que le prestige de l'Italie était plus grand et peut-être aussi parce que, n'oublions pas le contexte historique et politique du moment. D'abord, la situation de la France dans la première moitié du XVIIe siècle est, disons-le, invraisemblable. On est passé d'une renaissance sous le règne d'Henri IV à toute une série de désordres, la guerre de 30 ans, des conflits intérieurs comme extérieurs qui vont faire que toute l'énergie du royaume, du premier, c'est-à-dire du roi de France, jusque à tous ses sujets, et puis eh bien, cette énergie, elle est tournée vers la défense de la patrie. Et il ne faut pas l'oublier, vers, en quelque sorte, la libération. Hein, parce qu'une partie du territoire que nous connaissons aujourd'hui, hein, dans nos frontières, n'appartient pas au pays. Parce que la menace impériale, autrement dit espagnole, elle s'exprime aussi bien par les Pays-Bas, qui sont à l'époque province espagnole, par les principautés allemandes sous tutelle impériale et par l'Espagne qui,
sous les Habsbourg.
Qui opère une sorte de mouvement de tenaille et qui tiennent par le nord, l'est et le sud notre pauvre pays. Donc il faut s'affranchir de cette contrainte. Et quand on est accaparé par cet effort de libération, il est clair qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir se consacrer aux choses de l'esprit et des arts. Et c'est justement, si vous voulez, c'est justement là où les choses sont passionnantes, c'est qu'on va voir progressivement à la fois cet effort se produire pour obtenir cette libération qui va aboutir au grand traité que vous connaissez, 1648, et puis ensuite traité des Pyrénées et autres, qui vont asseoir à nouveau la France dans le paysage européen et bientôt l'amener à la première place. Donc on passe d'une situation où on a une France totalement en déshérence à une situation où la France est redevenue, dans notre Occident, à la première place. Et en parallèle, on voit que le mouvement des arts épouse un petit peu ce contexte-là, mais aussi sait faire preuve d'autonomie. Et on remarque, c'était la chose, à mon avis, la plus importante à faire, je l'avais expérimenté au travers de recherches personnelles, mais sans aller au bout de la démonstration. Et puis, il se trouve que j'ai eu la possibilité, avec Yann Demar, historien de l'art, belge, grand connaisseur de l'art flamand, vous vous en doutez, nous avons eu l'opportunité de mettre à plat la question et d'essayer de regarder, non pas des théories, hein, parce que je ne dresse pas une théorie, je prends des œuvres et j'essaye de comprendre ce qu'elles nous racontent. Et ces œuvres, je vais essayer de vous le montrer, sont des œuvres qui, en effet, pendant la première moitié du XVIIe siècle, montrent la grande influence de l'art flamand sur l'art français. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons en quoi les efforts produits par nos ancêtres ont abouti à un renversement de situation étonnant, parce que non seulement nous avons acquis notre individualité politique et culturelle, mais nous avons ensuite réussi à influencer nos voisins. Et ça, c'est une chose qu'on ignorait complètement. Je pense qu'il y a, dans l'exposition que nous présentons, une part d'œuvres et un certain nombre d'artistes que nos compatriotes n'ont pas l'habitude de rencontrer dans nos musées. Ce sont pourtant des gens qui sont venus au XVIIe siècle, dans la seconde moitié du siècle, travailler à Paris. Ce sont des gens qui ont pris leur style et leur écriture à la mode française et qui ont reproduit, au fond, les principes de notre école. Et voilà comment, vous le disiez parfaitement, on est passé de cette situation d'influence où, entre guillemets, nous subissions, en quelque sorte, à une situation où notre rayonnement est allé très au nord, parce que vous citiez justement les deux exemples qui sont dans l'exposition, Liège, mais chose invraisemblable, et j'espère avoir l'occasion d'y revenir, Amsterdam.
Dans les Flandres.
Voilà. Donc c'est pour vous dire que cette influence-là, elle a été très haut et elle a été largement suivie.
Justement, c'est une autre question que je voulais vous demander. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler la différence entre la peinture flamande et la peinture hollandaise? Parce qu'il y avait quand même déjà eu Rembrandt qui était
Alors,
déjà connu.
Alors, si vous voulez, vous avez ces provinces du Nord qui sont placées sous une identité à peu près de langue, d'esprit, jusqu'au XVIe siècle. Et là, il se passe deux choses. Première chose, les provinces du Nord vont faire sécession en quelque sorte, et notamment dans le domaine de la religion, puisqu'elles rejoignent la Réforme. Donc évidemment, ça va créer un fossé entre les deux parties de ces anciennes provinces unies, comme on disait à l'époque. Et la deuxième chose, c'est que l'Empire, en particulier le roi d'Espagne, va envoyer des armées pour essayer de mater ces rebelles. Alors, autant dans la partie sud, qui correspond aujourd'hui à l'actuelle Belgique, vous avez un pays qui reste sous la tutelle espagnole et de confession en majorité catholique, autant dans la partie nord, vous avez un pays qui donc refuse la sujétion de l'Espagne et qui se présente comme un pays libre, y compris dans ses confessions et dans les religions qu'elle peut professer. Donc voilà la grande différence. Et pendant tout le XVIe siècle, avec des guerres qui vont être terribles comme on peut l'imaginer, jusqu'au premier tiers du XVIIe siècle, vous avez un combat féroce qui s'établit entre les autochtones et les troupes impériales. Le duc d'Albe, vous savez, qui est ce personnage de sinistre mémoire qu'on cite tout le temps, c'est celui qui, agissant pour le compte de l'Espagne, va essayer de mater cette révolte. au final, il n'y arrivera pas. On ne peut pas s'opposer à la volonté d'un peuple. Et ça aboutira un peu plus tard à la création des provinces unies et finalement du royaume, puisque après être passé par une période de république, très vite, l'actuelle Hollande va devenir une royauté. Et c'est vous dire que très tôt, s'il y a un socle commun aux deux entités, il y a aussi des différences qui apparaissent. Et l'école hollandaise, ce que nous, nous appelons l'école hollandaise, eh bien, elle connaît déjà de grands maîtres dès le début du XVIIe siècle et elle se manifeste par toute une série de grands artistes, comme dans les provinces qui sont restées sous la tutelle de l'Espagne, c'est-à-dire au sud, à Anvers notamment, vous avez aussi d'autres grands peintres. Notamment l'un d'entre eux qui nous intéresse beaucoup, puisqu'il s'agit de Rubens.
Voilà.
Alors voilà, vous avez cette situation, vous voyez, aussi très conflictuelle. Et peut-être, finalement, peut-être pourrait-on dire que pour la période qui nous intéresse, c'est parce que le régime politique des provinces de la Flandre, en quelque sorte, je le répète, sous tutelle espagnole, n'est pas bouleversé, qu'on ne remet pas en cause l'ordre établi. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de facilité pour que les expressions culturelles et artistiques s'expriment sans trop de difficultés et qu'un grand peintre comme Rubens réussit l'étonnante carrière qui va être la sienne.
Oui, vous parliez d'Anvers, c'était une grande métropole à l'époque et
voilà.
Qui était donc vraiment un centre commercial.
Très important, c'est
très
une
important.
Des grandes capitales du Nord.
Où il y avait apparemment moins de problèmes.
Voilà, bah, c'est-à-dire que si vous voulez, Anvers fait partie de l'entité qui reste sous la tutelle impériale.
Oui, donc, sans trop de problèmes. Alors,
voilà, et à partir de ce moment-là, si vous voulez, bon, notamment quand la ville n'est pas mise en cause par des sièges, par exemple, eh bien le commerce se développe, c'est aussi simple que cela. Mais si vous allez plus au Nord, il va soit que les mouvements des armées font qu'on ne peut pas, on ne peut pas voir la richesse se développer. Ça va être le grand combat de la Hollande avant de conquérir son indépendance.
Oui. Et peut-on dire que ce furent les seuls courants artistiques influents au XVIIe siècle ou faut-il en mentionner d'autres en Europe ?
Alors,
justement en Espagne, par exemple.
Si vous voulez, il y a depuis la fin du XVIe siècle, et ça je pense qu'on pourra y revenir dans le fil de notre entretien, il y a depuis la fin du XVIe siècle un grand courant qui traverse toutes les contrées de l'Occident. Il faut le comprendre comme à différentes époques, ces mêmes tendances de fond vont en quelque sorte se manifester dans tous les pays, quels qu'ils soient. Ce mouvement, c'est ce qu'on appelle le mouvement baroque. C'est un art qui s'exprime aussi bien dans l'architecture, dans la sculpture, dans la peinture et dans toutes les autres formes d'art, notamment les arts décoratifs. Donc c'est un mouvement artistique qui privilégie l'effet. Et nos amis anglais disent « l'affect ». La recherche qui est essentielle pour ce mouvement, c'est une recherche qui consiste à émouvoir. Et on va émouvoir avec du rythme, on va émouvoir avec de la couleur. Voilà quelques éléments que je peux citer et qui appartiennent en propre à l'art baroque. Et ce mouvement-là, vous le trouvez en Espagne, vous le trouvez en Italie, vous le trouvez en Allemagne et vous le trouvez dans les Flandres. Et on peut dire d'une certaine façon qu'on le trouve aussi en France. Mais c'est bien pour ça que la situation qui va se développer ensuite est exceptionnelle. Alors je n'en dis pas plus pour l'instant.
Oui, parce qu'on va détailler ça un peu plus loin. Mais écoutez, je vous remercie infiniment de cette extraordinaire synthèse historique et artistique de ce début du XVIIe siècle. Je vous propose une courte pause avec bien sûr de la musique du siècle. après cet extraordinaire éclairage de la scène artistique du XVIIe siècle, en tout cas du début, c'était un véritable cours d'histoire de l'art. Et dans l'esprit de cette nouvelle lecture, donc, je vous propose, Nicolas Sainte-Fargarneau, de nous présenter plus en détail 5 artistes de votre choix parmi les 2 courants, donc baroque flamand et classique français. Et vous souhaitiez, je pense, commencer par le maître d'Anvers, Pierre-Paul Rubens, et nous parler d'un de ses tableaux, je pense, emblématique, l'allégorie du bon gouvernement.
Voilà, à tout seigneur, tout honneur, c'est le plus grand et c'est un artiste qui nous intéresse puisque vous le soulignez à l'instant. Il a, commencé sa carrière à Anvers où il est né. Il a fait son voyage en Italie comme c'était fréquent à l'époque. Il est revenu à Anvers et là, il est à la tête, si je devais utiliser un terme actuel, je dirais d'une factory. C'est-à-dire, c'est une véritable usine à fabriquer des tableaux. Il a une 30aine d'assistants. Il est devenu l'homme le plus important, en tout cas dans le domaine des arts, de la chrétienté. Il est sollicité par le roi d'Espagne. Il est sollicité en Italie par les grands princes. Il est sollicité par, évidemment, les régents à Anvers, à Bruxelles, autrement dit dans ses Flandres d'origine. Et sa réputation s'étend dans tous les pays, je le répète, de la chrétienté. Alors, cet artiste vient à Paris et pour un chantier qui ne vous échappe pas, j'en suis sûr, qui est la galerie du Palais du Luxembourg. Je vous rappelle les choses en 2 mots. Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, veut imposer sa marque sur le gouvernement de la France. Et vous vous souvenez, bien entendu, qu'elle est entre guillemets, étrangère. C'est comme ça que beaucoup de chroniqueurs de l'époque la présentent. Ils n'aiment pas trop cette traîne qui vient de l'extérieur. Et vous savez qu'à la suite, on est allé jusqu'à des titres peu flatteurs comme la grosse banquière, hein, pour rappeler l'origine professionnelle de la famille Médicis.
C'était toujours esthète, déjà,
voilà.
Les Français.
Voilà. Alors, Marie de Médicis se dit « une reine habite un palais ». Et je vais donc quitter le Louvre pour me faire construire un palais dont on comprendra que c'est celui de la reine. Parce qu'au Louvre, elle est chez les rois de France. Donc comme elle tient à marquer, son sujet, elle fait construire le palais du Luxembourg. Donc le palais du Luxembourg, c'est une réplique du Palazzo Pitti. Elle envoie des architectes français faire des copies à Florence. Et puis Salomon de Brosse est finalement retenu pour élever le bâtiment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle veut décorer la galerie de son palais. La galerie dans un palais royal est une chose évidente. On en avait à Fontainebleau comme au Louvre. Et donc, elle envisage une galerie peinte avec une histoire, bien sûr. C'est sa propre histoire, mais en réalité, c'est l'histoire de ses fâcheries. On les connaît bien aussi, mais surtout de ses accords revenus avec son fils Louis XIII. Alors, c'est une histoire complètement inventée, romancée, et qui, évidemment, se termine à son avantage, parce que, vous l'avez compris, c'est une œuvre de propagande absolument étonnante. Donc, elle va solliciter plusieurs peintres qui vont tous se rétracter. Et au final, elle se dit, mais le seul qui est en mesure de répondre à mon attente, c'est Rubens. Alors, première remarque, c'est important, ce Rubens n'est pas un Italien. Il n'est pas un Français, et si elle s'adresse à lui, c'est que vraiment la réputation de Rubens est au-dessus de tous les autres. Et Rubens accepte. Il vient à Paris, il fait, il signe le marché, et il accepte de revenir quelques années avec tous ses tableaux pour les accrocher dans la galerie du palais.
En quelle année ?
1625. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait, jusqu'à une date récente, que ce décor mis en place, il allait en préparer un autre, qui était le décor de la deuxième galerie avec la vie d'Henri IV. Donc on aurait eu un petit peu les 2 points de vue, mais tout ça sous l'œil et le contrôle de Marie de Médicis. Et surtout, on avait oublié qu'à l'occasion de sa venue, Rubens avait décoré aussi les appartements de la reine. Comprenez que dans un palais, vous avez des salles officielles, des salles de réception et d'autres dans lesquelles seuls les proches de la reine sont amenés à entrer. Or, j'ai retrouvé l'inventaire descriptif du palais du Luxembourg dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et on nous dit que dans le cabinet de la reine, en dessus de cheminée, vous avez un tableau ovale qui présente une allégorie et dans la description de l'allégorie, on retrouve détail pour détail ce que vous voyez dans le tableau que nous présentons à l'heure actuelle dans l'exposition du musée Jacques Marandré. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on ignorait que ce tableau avait décoré l'appartement de la reine. Et c'est parce qu'on a retrouvé un document d'archives qu'on peut en être sûr. Il y a un deuxième élément qui est passionnant. Ce tableau, c'est un tableau qui a été acheté au début du 19e siècle par le docteur Lacaze. Lacaze était un grand collectionneur. Il avait acheté beaucoup de fragonard à une époque où la peinture rococo, 18e siècle français, n'était pas du tout appréciée. Donc il a su acheter des chefs-d'œuvre pour une bouchée de pain. Voilà un grand collectionneur. Il avait l'œil et il savait bien utiliser le peu d'argent dont il disposait. Et il a acheté ce tableau qu'on lui présentait comme un portrait de Marie de Médicis, réalisé par Rubens. Le tableau est légué au Louvre. Le Louvre le fait déposer au musée Château de Blois. Alors pourquoi là ? Eh bien tout simplement parce qu'on se souvenait que Marie de Médicis avait été exilée par son fils Louis XIII à Blois. Et que donc le souvenir de Marie de Médicis était vivace sur place. Et on s'était dit, puisqu'il y a un portrait discuté, l'identité, j'y reviendrai dans un instant, et l'attribution, elle aussi, était discutée, on va faire plaisir à nos amis blésois, on leur envoie le tableau, et comme ça, tout le monde sera content. Donc le tableau est oublié depuis des années à Blois, où il portait une attribution école flamande et rien de plus. Et si vous lisez le cartel, c'est-à-dire, vous savez, la petite plaquette sur laquelle vous avez la description du tableau, vous voyez le cartel 19e siècle, c'est-à-dire ancien, qui vous dit « Pierre-Paul Rubens, portrait de Marie de Médicis ». Alors, qui a raison ? C'est un petit peu la question qui se posait. En réalité, ça n'est pas un portrait de Marie de Médicis, c'est certain, mais c'est une allégorie du bon gouvernement. Et alors, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsqu'on étudie le décor des appartements de Marie de Médicis au Luxembourg, on s'aperçoit que dans chaque salle, et souvent en dessus de cheminée, vous avez une allégorie du bon gouvernement. Or, imaginez le courtisan qui rentre dans les appartements de la reine. Salle des gardes, première salle, allégorie du bon gouvernement. S'il n'a pas compris, il rentre dans la salle suivante, antichambre, allégorie du bon gouvernement. Et puis il va rentrer dans la chambre de la reine et il va tomber sur une troisième allégorie du bon gouvernement. Vous avez compris, la reine veut persuader ses visiteurs que sous son règne, la France est mieux gouvernée que précédemment. Je ne cite aucun nom, mais vous avez compris. Voilà pourquoi le thème se répète dans les appartements à chaque salle. Et évidemment, ce thème se rapporte en effet à une iconographie qui est voulue par Marie de Médicis. Donc, on a assimilé forcément l'allégorie à l'identification du personnage, c'est-à-dire à la reine elle-même. Mais en réalité, nous avons une femme qui tient une corne d'abondance d'une main et de l'autre main le sceptre royal. On reconnaît la fleur de lys, il n'y a absolument aucun doute. C'est la France et qui tient la corne d'abondance, ce sont les biens qu'elle dispense à tous ses sujets. Et ce bon gouvernement se comprend parce que de ses pieds, l'allégorie écrase des armes. Vous reconnaissez là les armes qui sont les symboles de l'Espagne. Voilà, Marie de Médicis garantit à la France le meilleur gouvernement, alors que jusqu'alors, la période était troublée. Et ce tableau, je le répète, c'est un tableau qui, de toute évidence, on en a maintenant la certitude, a été peint au moment où Rubens revient à Paris en 1625. Alors, moi, je suis prudent et je dis que certainement, dans ce grand tableau ovale, il y a des parties qui ont été réalisées par les assistants de Rubens, comme ça arrive toujours. Rubens, je vous le disais tout à l'heure, c'est le maître d'une grande usine. Il fabrique des tableaux en veux-tu, en voilà. Et là, il était pressé, il a certainement demandé à Juste d'Egmont ou à d'autres assistants de l'aider à réaliser cette œuvre. Alors, c'est formidable parce que il va de soi que je ne pouvais pas sortir un tableau de la Galerie Médicis actuellement au Louvre pour l'amener à Jacques Marandré, c'était impensable. Mais j'ai réussi à conjuguer la difficulté et à trouver un véritable Rubens, et surtout un Rubens qui a effectivement décoré les appartements de la reine au Luxembourg. Donc nous sommes en plein dans notre sujet.
Oui, donc vous avez réussi à le sortir de Blois.
Voilà.
Oh, mais à défaut de le sortir de la galerie ou du Louvre.
Les collègues de Blois sont tout à fait, comment dire, bienveillants à mon égard et ils ont été enchantés qu'on puisse en effet, dans le cadre de ce programme, montrer le tableau et justement, au fond, le réévaluer. Plusieurs collègues belges ont eu l'occasion de le voir et se sont finalement rendus compte que l'hypothèse qui était avancée était une hypothèse tout à fait sérieuse.
Écoutez, c'était encore un magnifique voyage à l'intérieur du palais de Luxembourg.
Je voudrais ajouter juste une chose. C'était important de montrer l'intervention de Rubens à Paris. Et avec ce tableau, nous en avons une trace, sans parler des autres qui sont au Louvre, naturellement. Oui. Mais l'important, c'était aussi de montrer que Rubens n'avait pas été le seul artiste flamand à venir à Paris. Et vous verrez, je ne vais pas m'étendre sur
loin
le sujet, vous verrez dans l'exposition que, en effet, au-delà du voyage de Rubens, beaucoup d'artistes flamands s'étaient même établis à Paris.
Voilà pour votre première sélection, tout un monde, Rubens, Marie de Médicis, le Palais du Luxembourg, comme si vous y étiez. Et donc, Jacques Fouquier aussi fait partie de votre sélection, et notamment un paysage montagneux de 1621,
Absolument.
Qui est à Nantes.
Oui, au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Et alors justement, voilà un autre exemple. Si vous voulez, Jacques Fouquier, c'est un artiste du Brabant. Il travaille à Bruxelles, à la période qui nous intéresse, et voilà qu'en 1621, comme par hasard, c'est exactement l'année au cours de laquelle Rubens va négocier avec Marie de Médicis le contrat pour la réalisation du décor de la galerie. Donc, Jacques Fouquier, à la même époque, quitte Bruxelles et vient à Paris. Donc, voilà un autre exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, d'artistes flamands qui viennent donc travailler à Paris. Alors, le cas de Jacques Fouquier est passionnant puisqu'il vient à Paris et il va très vite devenir peintre du roi. Autrement dit, il va travailler pour donc la cour et il va réaliser de grands décors. Lui est spécialiste du paysage. Et le tableau que le Musée des Beaux-Arts de Nantes a bien voulu nous prêter pendant la durée de l'exposition, c'est un tableau extraordinaire. Je crois qu'il faut d'abord insister sur sa taille. C'est un grand format, alors que d'habitude, on est habitué, vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans les antiquaires du quartier, ici, je pense à notre arrondissement, ou alentour, autour du Louvre, vous voyez de très beaux paysages flamands, début XVIIe siècle. Souvent, ce sont des petits formats, parce que c'est de cette façon-là que ces artistes étaient appréciés. Et souvent, c'était des artistes qui peignaient des œuvres à destination de particuliers. Autrement dit, c'était des gens qui avaient peu de place pour accrocher leurs tableaux. Alors on faisait des petits formats. Et lorsque vous regardez le tableau de Fouquier, ce grand paysage sauvage, vous voyez un tableau dans lequel eh bien, vous avez un panorama. On disait à l'époque un panorama. C'est très important, ça n'est pas une vue refermée sur de la verdure, mais au contraire, elle est tout à fait ouverte. Et ce que vous voyez se développer sur plusieurs plans, c'est une nature avec des montagnes, avec des vallons et à nouveau avec des montagnes, ceci traité dans des coloris qui appartiennent à ce système visuel où on met le sombre en premier plan et ensuite on va éclaircir la palette jusqu'à arriver au tout dernier plan du tableau. Et c'est comme ça qu'on crée la transparence. Donc Fouquier nous propose un modèle qui existe depuis le début du XVIIe siècle, qui a déjà été réalisé par Josse de Montpère ou qui a déjà été pratiqué par Patinir. Je cite deux autres grands paysagistes, fin XVIe, début XVIIe. Et lui va leur donner une ampleur nouvelle. Et c'est évidemment ceci qui est le caractère tout à fait étonnant du tableau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette œuvre, c'est une œuvre qui est citée dans l'inventaire des collections de peinture du roi à Versailles, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc, ce tableau, c'est un tableau important, c'est un tableau royal qui fait partie des collections Louis XIV et qui est même présenté à Versailles. Autrement dit, longtemps après la mort de Fouquier, on se souvient de l'importance et du maître, du peintre, et de la qualité du tableau.
Il y a toute une histoire, n'est-ce pas, sur la découverte du tableau à Versailles, parce que ce n'est pas Louis XIV qui...
Non, alors justement, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est Louis XIV qui l'a acheté? Et la réponse est non. Non, bien sûr que non, c'est pas lui, c'est son père qui l'avait acheté parce que Jacques Fouquier avait été peintre de Louis XIII. Et je vous rappelle en particulier que Louis XIII avait souhaité que Jacques Fouquier réalise une série de vues des grandes villes de France qui devait orner la galerie du Louvre. Quand vous allez au Vatican ou quand vous allez dans de grands palais à l'étranger, souvent vous voyez, vous découvrez une série de citadelles ou de villes fortifiées qui appartiennent au pays donné. Tout ceci pour rappeler l'importance, l'ampleur du pays dans lequel vous vous trouvez. Et le souverain de l'époque avait l'habitude de dire « mais oui, cette ville m'appartient et cette autre ville m'appartient également ». Et donc là, Louis XIII avait l'idée de profiter de la galerie du Louvre pour installer toutes les villes françaises qui faisaient partie de son royaume. Et évidemment, il s'était adressé à Jacques Fouquier. C'est vraiment vous dire l'importance du peintre. Et par là, on peut imaginer qu'il avait aussi commandé un tableau comme celui que nous voyons aujourd'hui au musée. Alors ce tableau, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est acheté par Louis XIII, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais. Il est présenté au Louvre et puis ce tableau est tellement apprécié que Louis XIV naturellement va l'emporter à Versailles, où il est cité à Versailles dans les appartements du roi, accroché au mur, donc à un endroit où tout le monde le voit. Et puis on arrive au-delà du XVIIIe siècle, on arrive à la Révolution française. Alors là, c'est très étonnant parce que les révolutionnaires arrivent, trouvent que le tableau est formidable. Donc en effet, ils vont l'enlever du château, mais ils le gardent et puis ils le mettent en réserve. Et quelques temps plus tard, le tableau est envoyé à Nantes. Donc évidemment, c'est une situation qui est moins flatteuse, moins prestigieuse que celle qu'il avait avant. Au moins, c'est profitable pour le musée de Nantes et c'est heureux pour nous tous puisque le tableau est sauvé. Mais
c'est même étonnant.
Je suis évidemment enchanté de pouvoir présenter au public du musée Jacques-Marandré, au public parisien, un tableau de cette qualité parce que tout le monde n'imagine pas qu'au musée de Nantes, il y a une œuvre aussi exceptionnelle.
Oui, j'en profite pour citer un passage, une courte phrase que j'ai trouvée dans le magnifique catalogue. À propos de ce paysage montagneux de Jacques Fouquier, il est question d'un paysage dont on peut contempler l'amplitude de la composition, de son point de vue élevé à dimension atmosphérique, comme il est donc dit dans ce catalogue.
Oui. Alors, c'est effectivement le caractère très particulier de ce paysage. Vous savez, au XVIe siècle, on avait l'habitude, en tout cas dans l'école flamande, de façonner des natures très luxuriantes. Rappelez-vous, par exemple, ce que Bruegel faisait aider de ses assistants paysagistes quand il faisait des représentations du paradis. Et donc le paradis, c'était une espèce de forêt sauvage avec toutes sortes d'animaux, des bêtes, mais des lions, des léopards, mais qui était tout à fait pacifique puisque c'était le paradis. Hein ? Alors là, dans ces représentations-là, l'horizon était totalement bouché puisque vous aviez les arbres avec leurs ramures qui venaient jusqu'au premier plan. La grande innovation du début du XVIIe siècle, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, d'ouvrir le paysage, si j'ose dire, et de laisser la vue s'enfoncer jusqu'au lointain. Et avec l'utilisation si particulière des glacis qui donnent cette transparence et le bleu qui vient dans le lointain, qui est un bleu si fluide que, évidemment, on est subjugué devant de telles représentations.
Thank you. Nous avons toujours le grand plaisir d'être en compagnie de Nicolas Sainte-Fargarneau, donc conservateur du musée Jacques-Marandré et commissaire de cette magnifique exposition Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle. Et vous avez voulu faire une sélection donc, de 5 peintres. Nous avons déjà parlé de Rubens et maintenant de Jacques Fouquier. Et une autre œuvre sur laquelle vous vouliez nous donner un éclairage particulier, c'est le concert des frères Lenain. D'ailleurs, frères Lenain, il y en avait 3, Antoine, lui et Mathieu.
Alors, si vous voulez, dans cette exposition, le propos n'était pas, comme les historiens de l'art français, je pense en particulier à Pierre Rosimbert et à Jean-Pierre Cuzin, tentent de le faire aujourd'hui, de distinguer les mains. Évidemment, c'est très naturel d'essayer de découvrir derrière chaque tableau attribué aux frères Lenain ce qui revient à Louis, ce qui revient à Antoine ou ce qui revient à Mathieu ou aux 3 ensemble, que sais-je. Mais donc, ça n'était pas mon propos. L'idée était plutôt de montrer ce que l'art des Lenain devait à la peinture flamande. Alors, je vais, pour essayer de vous en convaincre, je vais vous rappeler un phénomène qui est tout à fait intéressant. Au XVIIIe siècle, à Paris, lorsque de grandes ventes de tableaux se font, et lorsque dans ces ventes, on voit apparaître des tableaux dont on sait aujourd'hui que ce sont des tableaux des frères Lenain, les descriptions, les sujets nous permettent de les identifier, mais la chose étonnante, c'est que ces tableaux ne sont pas donnés aux frères Lenain, ils sont donnés à des artistes flamands. Autrement dit, on pense un siècle plus tard que ces tableaux-là sont réalisés par des artistes originaires de Bruxelles, d'Anvers, enfin, de l'école flamande en général. Et donc, cette peinture-là est assimilée à la peinture flamande. Les recherches qu'on a menées ces dernières années, je pense à celles en particulier de Jacques Tuillier, essentiellement, puis celles de Pierre Rosimbert, nous ont fait changer complètement d'idée. Dans le corpus des œuvres attribuées aux frères Lenain, on a trouvé un certain nombre de tableaux qui, aujourd'hui, reviennent à un artiste qui s'appelle Goubot. Il est présent dans l'exposition. Et qui reviennent aussi à un autre artiste qui s'appelle Willemsen. Et si je cite ces 2 artistes, c'est que tous les 2 sont flamands. Alors, suivez mon raisonnement. On a dit, autrefois, au XIXe siècle, que les frères Lenain, parce qu'on avait bien repéré à l'époque que les frères Lenain et les artistes flamands traitaient les mêmes sujets dans la même facture. Donc, on disait, mais ce sont les Lenain qui ont influencé les flamands. Et aujourd'hui, on s'est aperçu de notre erreur, ce sont les flamands qui ont influencé les Lenain. Alors, le concert est un exemple, c'est un des chefs-d'œuvre que nous avons réussi à emprunter au musée de Laon. C'est un tableau magnifique et qui nous montre une scène d'intérieur comme les artistes flamands aimaient les pratiquer. Ce tableau, c'est un tableau évidemment qui nous renvoie à cette influence et nous avons autour justement plusieurs tableaux flamands qui montrent en quoi les scènes de réjouissance, les scènes de villageoise, tout ceci, c'est cette espèce d'influence flamande qui a compter sur les Lenain. Alors, il y a un dernier argument que je voudrais évoquer, parce que j'aurais du mal à vous dire la délicatesse des visages, des expressions, la subtilité du coloris tel qu'ils apparaissent dans ce tableau des frères Lenain, et qui est une chose vraiment admirable. Je ne peux que recommander, sans forfanterie, mais vraiment que recommander à nos auditeurs de venir se déplacer et de voir le tableau, parce que c'est d'une telle délicatesse qu'il n'y a pas d'équivalent même oral pour dire la beauté de ce tableau. Alors, la chose importante à retenir, c'est que ces frères Lenain ont habité au bourg Saint-Germain-des-Prés. Et la salle dans laquelle ces tableaux sont présentés est consacrée à des tableaux faits et peints au bourg Saint-Germain-des-Prés. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier au bourg Saint-Germain-des-Prés ? Et là aussi, il faut faire un petit retour en arrière et se souvenir que la France de l'Ancien Régime, c'est une France, c'est une société d'ordre et non pas de classe, comme on le dit d'habitude. Et c'est une société où il existe différentes juridictions professionnelles. Ça veut dire pour les métiers qu'il y a des corporations. Et une corporation parisienne, par exemple, défend le privilège de l'exercice de son métier. Je vais essayer de traduire ça en bon français pour nos auditeurs. Un artiste qui vient du dehors de Paris, cherchant à travailler à Paris, ne pourra pas exercer son métier du fait des lois de la corporation parisienne. Et donc, il faut trouver des stratagèmes, ou plus exactement des subterfuges. Lequel ? Eh bien, on fait appel à la bonne volonté de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, en lui disant qu'il a tout avantage à accueillir des artistes importants qui développeront leur commerce sur le sol du territoire dépendant de l'abbé et donc qui contribueront à l'enrichissement général. L'abbé est tout à fait d'accord. Je le dis souvent, il y a de l'autre côté de Paris une autre communauté religieuse qui procède de la même façon. C'est l'abbaye Saint-Antoine, au faubourg Saint-Antoine, qui n'accueille pas des peintres, mais qui accueille des ébénistes. Tous les grands ébénistes vont s'installer là. Ce sont des Allemands ou des Hollandais. Et que font-ils ? Ils peuvent monter leurs meubles et les vendre sans aucune difficulté. Tout le monde est content. Et de cette façon-là, on respecte la juridiction parisienne.
Et c'est resté jusqu'à récemment des centres voilà. artistiques à Saint-Germain-des-Prés et
bien
Saint-Antoine.
Sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Lenins, qui viennent de Laon, en Champagne, qui est une province un peu malmenée à l'époque et qui arrive sans soutien. Quand ils viennent en région parisienne, ils ne peuvent pas s'installer à Paris, donc ils vont habiter au bourg Saint-Germain-des-Prés. Et que font-ils pour survivre ? Eh bien, ils vont se mettre à la peinture, à la mode à l'époque. Et quelle est-elle ? Eh bien, les scènes de genre flamandes. Et vous avez là le lien qui explique pourquoi, dans la production des Lenins, en dehors des grands tableaux mythologiques ou des grands tableaux religieux, vous avez ces petites scènes de genre qu'ils ont beaucoup pratiquées.
Et aussi des bambochades. Vous voulez nous expliquer ce que c'est qu'une bambochade ?
C'est-à-dire que là, c'est un peu compliqué. Un peintre néerlandais, surnommé le bamboche, avait, à la même époque et à Rome, inventé le même type de scènes de genre, donc des scènes plutôt populaires, de réjouissance, qui amusaient beaucoup les amateurs. Et donc, il va de soi que cette influence flamande, elle se traduit aussi bien en France qu'en Italie. Et donc, c'est ce qui explique que les Lenins aient cherché à imiter une peinture qui se vendait. C'est comme ça qu'ils ont commencé à, comment dire, assurer leur succès.
Oui, donc c'est une peinture un peu plus libre, disons.
Oui,
pour ne pas dire libertin.
Non, je ne dirais pas ça. C'est une peinture qui... Alors, ça n'est pas une peinture savante. On n'a pas besoin de lire le tableau en se disant « Mais qui est Ulysse ? Qui est Vénus ? Comment représente-t-on une divinité ? Quelle est l'histoire racontée lorsqu'on évoque les amours de Tancrède ?» etc., etc. Donc, on n'a pas besoin d'être savant. On voit tout de suite, voilà, des gens qui s'amusent, des gens qui jouent aux cartes, des gens qui jouent des instruments de musique. C'est aussi simple que cela.
Oui, de toute façon, ce tableau, le concert, est vraiment d'un raffinement et d'une subtilité extraordinaire.
C'est un tableau magnifique. Magnifique, bien entendu.
Et passons maintenant, si vous voulez bien, Monsieur Saint-Fargarneau, à Nicolas Poussin, le peintre du classicisme par excellence. Et c'est, je crois, Coriolan que vous avez choisi de
nous
commenter.
Oui, alors juste, si vous le permettez, un petit mot pour dire que... Et je suis heureux de pouvoir en parler dans le cadre de cette émission et de votre antenne Canal Académie. Je vous ai dit tout à l'heure que la première moitié du XVIIe siècle est pour notre pays un temps de reconquête, en quelque sorte. Et que sous le règne de Louis XIII et sous le gouvernement du cardinal de Richelieu, le plus gros du travail va être réalisé. Ce qui est extraordinaire avec le cardinal de Richelieu, c'est qu'il sait qu'il faut repousser l'ennemi au nord et à l'est, comme il faut le repousser au sud, pour arriver aux frontières naturelles du pays. Et il sait aussi que cette guerre, entre guillemets, se gagne par les esprits. Donc ça va être un fin politique, un fin chef de guerre, mais aussi un propagandiste incroyable et quelqu'un qui va essayer de faire l'unité intellectuelle du pays. Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que la création de l'Académie française, c'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est un instrument avec le dictionnaire de la langue qui tend à unifier notre langue et à faire en sorte que tous les sujets du royaume de France parlent la même langue et se réfèrent au même concept. Donc c'est une chose capitale. Et dans le même temps, on le sait moins, mais Richelieu est un énorme amateur de théâtre. Il va lui-même organiser à ses côtés un petit salon de littérateurs qui vont lui écrire des pièces et quand il a le temps, lui-même versifie. Donc, il va jouer son rôle dans ce domaine. Et surtout, il va essayer de tirer l'école française de cette situation d'influence que je décrivais tout à l'heure. Et voilà pourquoi, grâce à son entreprise, des artistes qui n'ont pas fait le voyage dans le Nord ni dans le Sud vont élaborer une première forme de classicisme qu'on appelle l'école de Paris. Et pourquoi ça va fonctionner? Parce que le plus grand peintre français de l'époque, vous l'avez dit, Nicolas Poussin, est un artiste qui, au fond, à Rome, là où il réside, va donner ses lettres de noblesse à ce courant. Alors, vous m'avez demandé d'évoquer le Coriolan. J'y viens. Coriolan, c'est un général romain qui a considéré que les services qu'il avait rendus à sa patrie n'étaient pas remerciés comme il convenait. Et il fait quelque chose de terrible, il passe à l'ennemi. Et ça tombe très mal puisque Rome est assiégée par les Volsques, un peuple voisin. Et donc les Volsques acceptent, comment dire, le passage de Coriolan chez eux. Coriolan est un général, un chef de guerre émérite, et en 2 temps et 3 mouvements, il va réussir à quasiment mettre la ville à genoux. Et on est à 2 doigts de la reddition. Quand même, les Romains se disent « c'est pas possible, on ne va pas céder à cet ennemi et à cette conjuration ». Alors, ils envoient la famille de Coriolan, c'est-à-dire sa mère et sa femme avec ses petits-enfants qu'on voit sur le tableau à genoux et lesquels, mère et femme, supplient Coriolan de renoncer à ses funestes projets. Et que voit-on dans le tableau? Eh bien, on voit que Coriolan répond. Et comment répond-il? Il répond en tirant son épée de son fourreau. Donc vous l'avez compris, la réponse qu'il donne, c'est de dire « je les passe par les armes, je n'entends pas ce qu'on me demande et je continue le siège jusqu'à remporter la victoire ». C'est épouvantable. Là où ça devient intéressant, et c'est pour ça que j'ai tenu absolument à voir ce tableau, là où ça devient très intéressant, c'est que le tableau est un tableau qui, au fond, s'appuie sur des textes d'auteurs latins et notamment Tite Live. Mais dans les textes de référence, à aucun moment, lorsqu'on évoque l'histoire de Coriolan, on ne parle de cet épisode où les femmes viennent s'agenouiller devant lui. Ça, on le dit, mais à aucun moment on ne dit que Coriolan tire l'épée de son fourreau. Donc c'est une invention de Poussin. Et on comprend très bien ce que Poussin veut faire, si on précise ce fait qui a son importance, je le répète, ce que veut faire Poussin, c'est accentuer le caractère dramatique de la scène. Pourquoi? Parce qu'il veut en profiter, vous voyez tous ces personnages qui se développent sur la composition, leur donner des expressions différentes. Et ça correspond à quoi? Au mode de narration qui a été élaboré par les peintres classiques, lesquels veulent montrer l'expression des passions. Vous savez, ensuite, ça devient un texte de base et ce qui justifie toute la peinture dans l'école française. Donc voilà qui fait le détail, mais le point essentiel de cette composition. Et alors, du coup, on peut aller au-delà de cette description pour arriver à l'interprétation du sujet. On sait que le tableau est peint pendant la Fronde. On sait que ce tableau est destiné à un grand collectionneur français. Il est peint à Rome et Poussin le destine à un Français à Paris, à une époque où le pays est en pleine guerre civile. Et que voyons-nous devant ce tableau? Nous voyons un traître qui va quasiment mener son pays à la ruine. Et on comprend très bien que dans l'idée de Poussin, c'est probablement un grand prince, n'oublions pas la fronde des princes, qui précède la fronde des parlementaires.
Dans les années
1648-52. Vous voyez, c'est très précisément cette période. Et c'est le rappel, et c'est là où c'est intéressant, c'est que Poussin s'appuie sur une base historique, mais tout de suite il va au-delà, puisqu'il développe le sujet, et il va à la morale. La morale de l'histoire, si j'ose dire, comme plus tard La Fontaine le fera avec ses fables, c'est qu'on rappelle à tous les citoyens du pays qu'ils n'ont pas le droit de trahir leur pays. Voilà. Et ça, c'est un avertissement. C'est magnifique, vous avez là en quelques mots l'explication de la peinture classique. Elle ne cherche pas le bel effet, elle ne cherche pas seulement, elle peut le chercher, mais il n'y a pas que ça. Dans la peinture classique, il y a toujours cette intention d'aller au-delà et d'offrir un objet de réflexion avec une considération morale. Et c'est évidemment la raison pour laquelle on a dit plus tard que Poussin était le peintre philosophe. Alors, avec cette capacité à interpréter les sujets, il va évidemment devenir la référence de l'école française.
Oui, c'est comme une méditation ici dans ce tableau sur la loyauté, par exemple.
Voilà.
Et il cherche apparemment toujours à atteindre une réflexion universelle ou une interprétation universelle.
Partant d'un fait particulier, c'est donc une façon de raconter les histoires qui vise, vous l'avez dit, à l'universel. On peut le dire d'une façon plus simple, au général.
Il faudrait faire une émission en particulier sur Poussin parce qu'il y a énormément de choses à dire, bien sûr, sur ce très, très, très grand représentant du XVIIe siècle français. Le dernier tableau important que vous avez sélectionné parmi donc les œuvres de l'exposition au musée Jacques Marandré est le portrait de Jean Valdor,
oui,
par Berthollet Flémal.
C'est exact parce que voilà, nous entrons maintenant dans la troisième partie de la démonstration et ou de l'exposition, comme vous l'entendez. Et c'est-à-dire que maintenant, nous allons nous arrêter sur le retour d'influence et ce que la France va donner à ses voisins après avoir reçu de leur part. Et là, nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Nous avons un roi éblouissant, qui est le jeune Louis XIV, qui termine ce qui avait été largement commencé par Richelieu d'abord et Mazarin par la suite. Et il va donc donner à notre pays, il va redonner à notre pays sa puissance et la place qui lui revient dans le concert des nations. Alors, ce jeune souverain va essayer, pour là encore desserrer l'étau autour des frontières du pays, de s'entendre avec ses voisins. Et l'un de ses voisins, c'est le prince-évêque de Liège, qui est à l'époque une principauté. Liège, aujourd'hui, fait partie, vous le savez, des provinces belges, du royaume de Belgique, qui est notre voisin. À l'époque, c'est une principauté autonome, comme l'avait été quelques années avant le duché de Lorraine, mais qui a été rattaché à la couronne, alors que s'agissant de la principauté de Liège, elle reste encore autonome. Mais Louis XIV tient absolument à un accord privilégié avec cette petite principauté en se disant comme ça, l'Empire et les principautés allemandes ne seront plus maîtres de tout le terrain. Et en effet, l'accord se noue. Ce qu'on avait oublié, c'est que cet accord se noue aussi sur des échanges culturels. Alors, M. Berthollet Flémal, que vous avez cité, c'est un artiste qui est natif donc, de Liège et qui va se former dans son pays et puis va voyager. Et il vient à deux reprises à Paris. Et alors, je voudrais vous rappeler deux événements importants. À la fin des années 40, il participe au grand chantier de l'hôtel Lambert. Vous savez, l'hôtel Lambert, c'est le monument du classicisme. Je vous rappelle la célèbre série des muses de Stage Le Sueur. Enfin, bon, il y a là le nec plus ultra de la peinture classique. Et Berthollet Flémal y est déjà. Donc, vous voyez, phénomène intéressant. Et puis, il repart chez lui à Liège, où il reçoit quantité de commandes. Et en 1670, il revient à Paris. Que vient-il faire à Paris ? Il vient participer au chantier du Palais des Tuileries. Autrement dit, on demande à un peintre liégeois de venir travailler à Paris, et en particulier dans une demeure royale. Donc c'est un événement absolument considérable. Il est si bien accueilli qu'on lui dit, non content de lui confier un gros chantier, on le nomme membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, où très vite, on lui demande de participer aux travaux de l'Académie et d'en devenir l'un des professeurs, c'est-à-dire qu'il accède directement au rang le plus élevé. Voilà le cas de Berthollet Flémal. Et vous comprenez bien que pendant qu'il est à Paris, évidemment, il se met à travailler, il reçoit des commandes dans les différents couvents parisiens, les grands Augustins et d'autres, et il réalise des tableaux qui sont des tableaux d'inspiration non seulement classique, mais totalement française. Et voilà comment, par le biais de ces liens, nous avons maintenant des représentants liégeois qui peignent non plus à la Rubens une peinture baroque, mais qui s'inspire directement de la peinture française et qui peignent comme Sébastien Bourdon, comme Nicolas Poussin et plus tard comme Charles Lebrun. Donc voilà la transformation absolument extraordinaire et je dois dire, je suis assez fier, pardonnez-moi cette immodestie, mais je dois le dire, je suis assez fier d'avoir réussi à rassembler des œuvres venant des musées, notamment de Liège et de grandes collections particulières. J'ai été beaucoup aidé par des collectionneurs liégeois qui ont apprécié le souci que j'avais et nous pouvons de cette façon-là présenter un panorama de la peinture liégeoise de l'époque, avec Berthollet Flémal, avec Gérard Douffet, avec Walter Damery et surtout Gérard Delérès. Alors Gérard Delérès est un cas un peu particulier parce qu'il a été, semble-t-il, élève de Berthollet Flémal. Il a travaillé dans sa région comme tous ses compatriotes. Et puis dans les années 70, le voilà qui part à Amsterdam. Alors, quand il arrive à Amsterdam, il semble que sa réputation soit déjà établie, puisque qui l'accueille, je vous le donne en mille, un certain Rembrandt. Voilà. Et que font deux artistes lorsqu'ils se rencontrent et qu'ils s'apprécient? Eh bien, ils s'échangent leurs portraits. Rembrandt fait le portrait de Gérard Delérès et Gérard Delérès fait le portrait de Rembrandt. Tout ça est documenté et donc nous avons ici un modèle de ces amitiés qui sont échangées entre les deux peintres. L'affaire se poursuit un peu moins bien, hein, il faut le dire, parce que même nos amis hollandais ont du mal à l'accepter. Mais cet art, la peinture de Rembrandt, si vous interrogez aujourd'hui un hollandais, on vous dira évidemment, c'est notre nature, c'est notre âme à nous qui s'exprime au travers des pinceaux de Rembrandt. Très bien, mais ce qui explique aussi un peu la fin de la carrière de Rembrandt, dont on dit qu'elle a été moins prestigieuse que dans les années précédentes, c'est que Amsterdam est envahie par la vague classique française. Et que donc, à cette école de peinture, Rembrandt et ses élèves, va succéder, pour le succès, pour les grandes commandes, une école qui est totalement inspirée par la peinture française. Et ça, bien sûr, on l'a complètement oublié. Donc, on termine l'exposition avec ce dernier appel, plusieurs tableaux de Lérès faits à Amsterdam qui nous montrent que cette vague classique, elle est remontée très très haut.
Ben voilà un des grands mérites de cette fabuleuse exposition. En tout cas, vraiment un grand merci Nicolas Sainte-Fargarneau pour cette exceptionnelle leçon d'histoire de l'art qui nous a proposé donc une lecture tout à fait nouvelle de la scène artistique du XVIIe siècle et de cette extraordinaire richesse des échanges culturels entre les Flandres et la France. Et nous ne pouvons que fortement recommander donc la visite de cette exposition du baroque au classicisme Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle au musée Jacques-Marandré à Paris, boulevard Haussmann. Et puis, avant de vous dire au revoir, quand même, il faut absolument recommander ou suggérer à tous nos auditeurs à l'étranger qui ne peuvent pas venir dans notre beau Paris, dans notre belle capitale, il y a une consolation, le luxueux et très très documenté catalogue de l'exposition aux éditions Culture Espace.
Voilà,
enfin, on peut donc se procurer.
C'est le fonds Mercator qui est l'éditeur du catalogue.
Oui, et qu'on peut se procurer par Internet, je suppose, par Amazon,
etc.
Oui. Cette publication rassemble près de 70 tableaux d'artistes renommés, de Rubens à Poussin, en passant par Champagne, les frères Lenain, Lebrun, Delahire et tant d'autres. Et il comprend des contributions des plus éminents historiens de l'art, dont une mise en lumière fort détaillée de la scène artistique des Flamands à Paris par notre invité Nicolas Sainte-Fargarneau. En tout cas, un grand, grand merci. et j'espère pouvoir vous accueillir très prochainement à nouveau à notre antenne.
Très volontiers. Au revoir.